sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Et comme toujours, j'ai le plaisir de saluer son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, prêt pour une autre émission bien chargée encore aujourd'hui.
Assurément.
Et d'ailleurs, Donald qui sera disponible à chaque émission en deuxième partie d'émission pour répondre à vos questions. Donc, dès maintenant, chers auditeurs, auditrices, vous pouvez aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes et cliquer sur « Poser vos questions » ou sinon, on le fait par texto ou par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. C'est Donald, habituellement, on arrive au mois de décembre, les gens pensent à aller dans le sud, mais nous, on va aller dans le nord ce midi.
Oui, on va emmener les gens dans le nord effectivement, avec une expérience.
Exactement, parce qu'on a, puis on est gâtés depuis le début de notre série, plusieurs fois, on a eu des invités en studio, et c'est le cas encore aujourd'hui, puis je vais te laisser le privilège de présenter notre invité aujourd'hui.
Ben oui, présenter David Desgagné, donc PDG de...
David Rivet.
Excuse. David Rivet, merci. L'absurde, hein, David Rivet, PDG de Desgagné Transatlantique. Donc, merci d'être là, David.
Merci beaucoup, Donald, de l'invitation. Fait grand plaisir d'être présent. D'ailleurs, j'ai écouté toutes les émissions jusqu'à présent. Très intéressant, très bonne initiative.
Bon, c'est bien. Mais écoute, je pense que Donald est bien placé pour nous parler de la pertinence de cette émission-là, puis pourquoi on invite notre ami David aujourd'hui.
Ben, moi, j'ai découvert les trucs quand je suis arrivé PDG, je les voyais passer en avant de chez moi, les bateaux de Desgagné, donc même le cargo du Nord, mais je savais pas que ça venait de Bécancour. Et puis quand je suis arrivé, ben, j'ai découvert tout ça. Et puis, on a parlé beaucoup de la filière batterie ici, mais c'est important de parler de ce qui se passait avant aussi la filière batterie, puis ce qui va continuer à se passer. Puis c'est quand même, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop qu'il y a un port à Bécancour parce qu'on passe sur l'autoroute et le port est à quelques kilomètres sur le bord du fleuve. Donc les gens qui passent là chaque matin ne sont pas nécessairement conscients de ce qui se passe. Les gens de Champlain sont plus conscients de ce qui se passe au port que les gens de Bécancour.
Puis on sait qu'dernièrement, on a parlé du port pour les gros investissements qui ont été annoncés récemment par les deux paliers de gouvernement. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de peut-être focusser davantage sur une entreprise en particulier. Puis on s'est entendu avec David de se tutoyer durant l'entrevue. Donc, David, très heureux de t'accueillir, Donald et moi, dans nos studios de Via 95. Moi, le groupe Desgagné, évidemment, c'est un nom bien connu depuis longtemps, mais Desgagné Transatlantique, moi, ça me disait rien. C'est quand même là depuis quelques temps. Peut-être nous faire un petit peu l'historique de tout ça, Desgagné Transatlantique, par rapport à Desgagné, mais aussi par rapport à votre présence au port de Bécancour.
Tout à fait. Donc, Desgagné, c'est une histoire de près de 140 ans dans le transport maritime qui trace ses origines dans le coin de Charlevoix. Desgagné Transatlantique est une filiale qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années.
D'accord.
Qui a sa vocation, c'est vraiment de faire le réapprovisionnement du Nord. Le réapprovisionnement de l'Arctique canadien. Donc, en très peu de mots, ce qu'on peut décrire, c'est qu'on reçoit de la marchandise, on consolide de la marchandise dans un port au sud. Et puis, on utilise des navires. Dans notre contexte présent, on a 10 navires qu'on exploite, qu'on charge la cargaison à bord de ces navires-là, puis se rendent dans l'Arctique canadien, soit au Nunavik ou Nunavut. Il y a plus de 50 destinations dans l'Arctique canadien dans lesquelles nous desservons. Puis on transporte tout type de marchandises qu'on aura la chance d'en discuter davantage. Et ça, c'est contraigné par les saisons de glace. Donc, à tous les étés, lorsque les conditions de glace sont favorables, l'ensemble de ces navires-là vont faire des voyages aller-retour dans l'Arctique canadien pour réapprovisionnement les communautés et les mines.
Donc, présent à Bécancour depuis une vingtaine d'années?
Je dirais pas loin de 20 ans maintenant. Ça a débuté avec une mine qui recherchait un endroit pour consolider sa marchandise. Puis il faut comprendre qu'une minière, lorsqu'ils opèrent au nord, faut quasi toute la marchandise soit transportée par bateau.
Oui, puis pratiquement un an à l'avance. Hein. Donc ça demande beaucoup de planification. Ça fait que c'est vraiment une logistique importante. Là.
Tout à fait. Il faut comprendre que dans les sites miniers ou les communautés qui sont situées au Nunavik ou Nunavut, il n'y a pas de voie terrestre pour s'y rendre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de rail. Donc, par conséquent, tout ce qui doit être transporté est par navire ou par avion. Puis l'avion, bien qu'il peut avoir une fréquence, a quand même ses limitations. Limitations en termes de quantité de cargaison qui peut être transportée, mais aussi par les dimensions. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer qui est utilisé pour une communauté au niveau de l'infrastructure ou pour exploiter une mine doit être transporté par bateau ou par avion. Et donc, c'est là qu'on rentre en ligne de jeu.
Donc, Bécancour, est-ce que c'est votre seul port d'attache, sans jeu de mots, pour exploiter ou desservir le Nord, ou vous avez d'autres stations portuaires au
en
Québec?
Effet, on a d'autres stations portuaires dans lesquelles nous utilisons au sein du fleuve.
Okay.
Il y a des endroits comme Valleyfield, Sainte-Catherine, Bécancour en est une majeure pour nous et critique. Et puis, il y a d'autres sites selon le besoin des clients, donc Québec et autres endroits qui peuvent être utilisés.
Puis, qu'est-ce qui est facilitant d'être à Bécancour pour une compagnie comme vous autres?
En fait, le parc industriel dans son ensemble, avoir du terrain, beaucoup d'emplacements pour placer la cargaison, pour préparer la cargaison, puis bien entendu, les nombres de postes à quai. Plusieurs postes à quai, donc plusieurs navires qui peuvent venir simultanément, et aussi la profondeur d'eau qui permet pour nous de charger nos navires à capacité. Donc, c'est un lieu stratégique. C'est un lieu aussi qui est à proximité des grandes autoroutes, à proximité de plusieurs fournisseurs. Donc, c'est un endroit stratégique pour le réapprovisionnement du Nord.
Puis aussi, pas d'écluses. Donc, si vous allez un peu plus à l'ouest, parfois vous êtes pris avec certaines écluses. Donc, des logiques un peu plus, sans dire compliquées, ça amène du temps, là.
Ça amène du temps, ça amène aussi des coûts. Et donc, l'efficacité du port de Bécancour, définitivement, a fait ses preuves au cours des dernières années.
Donc, Donald, le cargo du Nord, ça apporte un achalandage au port assez important dans une période assez concentrée
oui,
aussi. Là.
C'est ce qui fait que c'est un peu intense l'été, donc de juin à octobre, parce que les usines continuent à opérer pendant ce temps-là.
Ah, hein,
on a besoin d'alumine pour le billet encore, malgré que le cargo du Nord. Donc, ça demande quand même beaucoup de logistique, de planification, de collaboration entre les différents usagers du parc. Et puis, tu sais, il faut voir, on le dit ouvertement, le port, mettons, la société du parc doit s'autofinancer. Hein. Nous, on doit boucler le budget à la fin de l'année. C'est pas le gouvernement qui réinjecte si on a des pertes. Au contraire, on est pris à assurer la rentabilité. On doit assurer la rentabilité de la société du parc. Et les revenus, pour l'instant, les revenus du parc viennent à 80 % du port. Donc, c'est vraiment une source de revenus majeure. Donc, on met le port à contribution pour des joueurs comme des gagnés. Mais assurément, pour nous, on a tout intérêt à ce que ce port-là soit utilisé et soit efficace et puis que le monde en tire profit.
Est-ce que vous vous sentez serré au niveau des espaces actuellement? Est-ce que la venue ou l'annonce de l'agrandissement du port, c'est quelque chose qui était essentiel pour vous ou vous fonctionnez quand même assez bien actuellement dans les espaces actuels?
Je vous dirais que ça fonctionne bien, mais c'est sûr qu'avec une optique de croissance, une optique que le Nord, ses besoins en réapprovisionnement, que ce soit pour les communautés ou d'autres mines qui pourraient en venir en développement, ça prend des espaces, ça prend des postes à quai, puis une infrastructure portuaire et stratégique comme le port de Bécancour se permet, c'est sûr et certain qu'on est capable de l'exploiter davantage.
Donc, Donald, ça, c'est vraiment un exemple concret, allais-je dire, de bénéfice d'agrandir le port pour…
Oui, aujourd'hui, on fonctionne sans l'agrandissement. Assurément, la situation dans laquelle on est, c'est que le cargo du Nord, il y a comme une croissance. Donc, ça ne devrait pas aller en diminuant, au contraire. Le développement du parc aussi devrait amener un achalandage de plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment tenter de l'améliorer tout de suite. Même si c'est pas toutes les usines qui sont en production puis qu'il y a plein de terrains vacants, c'est justement des projets comme ça, ça se fait pas en quelques mois. Hein. Donc, le quai B6 qu'on a annoncé, c'est 2028-2029, même si on s'y met dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est des grosses sommes. Puis au-delà des grosses sommes qui sont requises pour faire ça, ça prend du temps à faire des projets de cette nature-là.
Donc, on l'a énuméré rapidement au début, David, les opérations dans l'Arctique, bon, de réapprovisionnement, bon, c'est… On dessert donc plusieurs communautés, plusieurs types de communautés, là, comme ça a été évoqué au début. Là.
Tout à fait, des communautés et des sites miniers. Donc, faut comprendre qu'au niveau de l'Arctique canadien, comme je mentionnais tout à l'heure, au-dessus de 50 destinations.
Mm-hmm.
Donc, il y a des communautés de 200, 300 personnes qui peuvent monter à quelques milliers. Et puis, il y a des sites miniers qui exploitent des mines d'or, des mines de minerais de fer, des mines de nickel. Donc, toutes des ressources naturelles très importantes pour l'économie, pour le pays dans son ensemble. Donc, ce qui est très unique au niveau de notre offre de services, c'est sur les 10 navires qu'on déploie. Juste pour mettre en contexte, là, les navires ont à peu près 150 mètres de long, peuvent charger à peu près 700 à 800 containers, donc pour imager au niveau des gens, qui ont des grues à bord des navires, des grues qui ont une capacité de levage de 500 tonnes. Que ces navires-là, ils sont capables d'affronter de la glace. Donc, à chaque année, ils vont remonter au nord. Puis, ce qui est très unique, très particulier, c'est qu'il y a peu d'infrastructures portuaires dans l'Arctique canadien. Exactement. Il n'y a pas de port de Bécancour dans l'Arctique canadien. Donc, le navire va s'ancrer au large, à peu près à 1 km, 2, 3 km, dépendamment des contextes, de la rive. Puis, on transporte à même les navires des remorqueurs, des barges et tout l'équipement de manutention par la suite pour aller à la plage, pour transporter la marchandise.
C'est impressionnant. Waouh, ça doit être quelque chose à voir. Ça.
Absolument.
Et à faire aussi.
Donc, vous pouvez imaginer, on arrive à l'ancre, on met les barges à l'eau, on met les remorqueurs à l'eau, puis par la suite, on utilise ces remorqueurs et ces barges-là pour placer toute la cargaison dessus, puis de l'apporter à la plage. Donc, c'est littéralement une plage, une rampe en gravier qui est là. Et puis, on effectue l'opération de déchargement de ce même type-là et voir le chargement également.
Donc, c'est toute une logistique. C'est tout, d'ailleurs, les défis du processus logistique, quels sont-ils, là, justement?
En fait, tout comme toute bonne chaîne logistique, chaque maillon est critique. Et ça commence et ça débute avec le port de Bécancour, où ce que toute la marchandise, elle est apportée, elle est préparée, elle est consolidée en vue de faire un bon chargement. Puis par la suite, bien entendu, c'est le transport maritime, l'opération de déchargement au nord, avec tous ces contraintes et ces défis qu'il pourrait y avoir, avec des conditions climatiques, des conditions de glace, bien entendu, des fois l'ensoleillement qui est plus difficile à l'automne. Donc, c'est tous les acteurs de la chaîne logistique qui font en sorte que c'est un succès et que ces communautés-là peuvent vivre et ces mines-là peuvent exploiter. Sinon, il y aurait énormément de difficultés.
Oui, tu sais, puis pour avoir parlé à certaines personnes qui font ce travail-là, j'en déduisais que chaque voyage est une aventure. Chaque voyage est une aventure pour ce que tu disais, David. Tu arrives là, tu ne connais pas les conditions météo, il y a plein de variables, et puis c'est un peu aussi un enjeu. Hein, donc, ils ont à planifier, mais avec de l'impondérable. Donc, la météo, la glace, c'est une chose, mais les vents, les tempêtes que vous pouvez avoir, des fois, ça change votre planif, ça bouscule votre planif. Donc, et puis, la saison ne sera pas plus longue. Là, donc, après ça, il faut vous tenter de rattraper les retards par différents moyens. Là.
Donc, ce que je retiens, c'est que le port de Bécancour, ça fait partie de cette chaîne. C'est un maillon important dans toute cette chaîne-là d'approvisionnement du Nord.
Tout à fait. Si vous pouvez imaginer dans une communauté de quelques personnes dans l'Arctique canadien, puis qu'il n'y a pas de source de réapprovisionnement pour votre véhicule, pour votre motoneige, pour votre logement, vous devez attendre que le transporteur maritime arrive. Vous imaginez comment c'est critique au niveau de performer le voyage, le performer de façon sécuritaire, puis de livrer cette marchandise-là. Et donc, nous, on se valorise beaucoup en étant ce lien essentiel-là avec, entre le Sud et le Nord.
Ben, ils doivent vous aimer beaucoup, David, quand vous arrivez. Là, ils ont attendu leurs marchandises tellement longtemps. Là, vous devez être bien accueillis.
C'est comme Noël au mois de juillet ou à toutes les années, effectivement.
Donc, ça répond à la question, le pourquoi de votre entreprise. C'est vraiment de fournir à ces communautés-là ce qu'ils ont besoin. Ce qu'elles ont besoin à l'année longue, dans une période courte, mais... Puis comme disait Donald, il faut planifier ça à l'avance, j'imagine.
Mettons, tu ne l'as pas abordé, mais clairement, c'est de base, mais toute la façon de charger le bateau est cohérente avec la séquence de déchargement. Tous les arrêts que vous devez faire doivent être planifiés à l'avance parce qu'on ne peut pas aller prendre le conteneur dans le fond du bateau au premier arrêt. Donc, il y a vraiment toute une logistique. C'est vraiment un casse-tête. Là. Un casse-tête, moi, j'ai vu que c'était pas... C'est pas juste de charger, décharger des bateaux, il y a une logistique, puis il y a comme une expérience qui est derrière ça. Là.
Définitivement une complexité. Les navires vont faire une destination, mais ça peut aller jusqu'à 7 différentes destinations. Donc, c'est vraiment un jeu de Tetris pour bien charger la cargaison à bord, faire une bonne ségrégation. Il y a toute une notion de stabilité du navire aussi qui doit être considérée. Donc, il y a une complexité dans toute sa chaîne, mais également dans l'opération de chargement.
Je serais pas très bon là-dedans, j'ai de la misère à charger mon auto. Je pense que j'aime mieux derrière le micro, mais quelle expérience incroyable. Alors, on va continuer cette discussion intéressante avec David Rivet, notre invité, président-directeur général de Dégagné Transarctique. On va aller dans une petite pause Et après, on revient avec David, avec Donald aussi. Puis aussi, on va permettre aux gens de poser des questions. Allez-y tout de suite. Posez vos questions sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Cliquez sur « Poser vos questions » ou sinon par texto ou par téléphone au 819-519-9050. 819-519-9050. On attend votre appel et vos questions.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Bonjour encore à tous qui vous joignez peut-être présentement à l'émission. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, on est avec David Rivet, président-directeur général de Dégagné Transarctique, pour nous parler du Cargo du Nord. Et on va continuer à en parler dans quelques instants. On est avec Donald Olivier également, PDG du Parc industriel. Et on a reçu des questions pendant la pause, imaginez donc. Donc, c'est ça qu'on veut et on est content. Donc, une première question que je vais poser à Donald avant qu'on retourne tantôt après nos deux questions avec notre invité. Première question, bon, d'une personne inconnue, donc anonyme, mais quand même, c'est rentré par texto. On a entendu dire qu'il y aura un site d'enfouissement pour des déchets des usines de batterie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des risques avec l'enfouissement de ces déchets pour la nappe phréatique et les terres agricoles autour? Et qui va payer pour construire le site?
Donc, parfait, merci pour la question. Puis, il y a déjà un site. Hein? Aujourd'hui, il y a déjà un site. En Fouibec, on perd déjà un site. Donc, le site, est en, quand on va en direction de Sainte-Gertrude, on démarre au parc, on s'en va vers Sainte-Gertrude. Le site est du côté est. Donc, c'est déjà un site qui existe, qui a déjà des matières d'entreposer là. Et puis, ce site-là est opéré. Puis, il n'y a pas de plan de vendre des terrains additionnels pour faire de l'enfouissement additionnel. Donc, l'entreprise doit manœuvrer avec les pieds carrés qu'elle a déjà. Et puis, la filière batterie, il y a certains résidus secondaires, mais ce qui est exploré, c'est de valoriser ces résidus-là. Donc, les masques au lithium, on va les avoir bientôt, probablement en janvier, vont pouvoir venir nous en parler parce qu'il y a certains résidus qui explorent différentes avenues, ajouté dans les bétons et des trucs comme ça pour tenter de valoriser ou le gypse. Mais il reste quand même quelques tonnages en bout de ligne. Et oui, le site d'Enfouibec va être mis en contribution. Et puis pour répondre à la question, c'est pas nécessairement un milieu agricole, c'est un milieu boisé là-bas et ce sont tous des cellules étanches. Donc quand on fait ça, vraiment, il y a des normes sévères et puis c'est vraiment, les cellules doivent être étanches. Il y a déjà un fond d'argile en plus pour s'assurer de l'étanchéité, mais il doit avoir tout un système de membrane et puis l'approche qui est prise, c'est aussi de tenter que ce soit récupérable. Parce qu'un jour, si c'est possible de récupérer ces matières-là, ça pourrait être possible de le faire. Et la dernière portion de la question, qui paye pour ça? C'est les entreprises privées qui ont recours à ce service-là. Donc, ce n'est pas des subventions du gouvernement, ce n'est pas le public qui investit, c'est carrément l'entreprise qui investit. Donc, les entreprises ont tout intérêt à minimiser ces déchets-là et à trouver des sources pour les valoriser.
Merci, Donald. Deuxième question qui nous provient de Marie-Chantal de Bécancour. Bon, bonjour à l'équipe. Félicitations pour votre programme toujours intéressant. Bon, merci beaucoup. On prend les fleurs. Et j'ai eu la chance de faire la visite guidée en trolley, bus du parc industriel. C'était très instructif. Je me demandais s'il y avait un plan de verdissement de prévu. Il n'y a pas beaucoup d'arbres et de gazon en bordure des rues ou sur les terrains des usines. Merci pour votre réponse. Bonne journée. Marie-Chantal de Bécancour. Est-ce qu'il y aura un plan de verdissement?
Bien, Marc, je pense qu'on va passer l'émission de la semaine prochaine à en parler
sur
l'environnement.
Oui.
Mais la réponse courte, elle est oui. Elle est oui. Puis c'est vrai qu'on est arrivé vite avec les projets. Il y a eu des coupes d'arbres assez rapides. Puis oui, on a différents plans. Donc, reverdir le parc, je vous dirais, c'est sûr que pour ce que les gens voient, moi, j'attends beaucoup le retour de l'étude du ministère des Transports. Tu sais, on ne voudrait pas planter des arbres que le ministère des Transports va couper dans 4-5 ans. Mais dès qu'on saura leur plan, on va se positionner. Mais tu sais, il y a la notion de piste cyclable, il y a la notion d'aire de conservation avec l'île Montesson. Assurément, on ne veut pas juste planter des arbres. On veut qu'il y ait des zones du parc qui soient accessibles au public, des zones naturelles du parc qui soient accessibles au grand public.
Donc, une planification harmonieuse là, qui est nécessaire. Là.
Oui, puis la semaine prochaine, on va en parler davantage, ce qu'on appelle notre fameux plan biophilique. Là, biophilie, le besoin de l'humain d'être en contact avec la nature, ça sera l'objet de la rencontre la semaine prochaine.
Alors, ne manquez pas ça la semaine prochaine. Émission sur l'environnement par rapport au parc industriel. Alors, préparez vos questions. Et en attendant, on revient au port, puis on revient dans le nord parce qu'on est avec David Rivet, président-directeur général de Dégagné Transarctique Incorporé, pour nous parler du cargo du Nord. On en a parlé depuis le début, comment c'est fondamental pour ces communautés-là de recevoir cet approvisionnement-là. Puis Bon, tantôt, on était impressionnés. Moi, en tout cas, moi, j'ai été impressionné. Puis je suis convaincu des auditeurs, auditrices aussi, d'entendre la description, comment ça se passe, envoyer tout ça là-bas. Mais ça prend du monde. Ça prend du monde pour travailler sur ces navires-là, au port. Bon, comment ça se passe au niveau main-d'œuvre, le recrutement? Bon, dans quelle mesure cette main-d'œuvre-là est aussi essentielle à la réussite de l'opération?
Tout à fait. On peut peut-être commencer avec le portrait au sud. Donc, à Bécancour, comme tel, on a besoin d'une panoplie de gens pour faire en sorte que ce chargement-là de navire-là et sa cargaison-là soient prêtes pour se rendre dans l'Arctique. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par des gens qui vont préparer la marchandise. Donc, ça va avec des entreprises locales qui vont fournir des pièces, qui vont fournir des ressources, des matériaux, des consommables ou autres. Donc, ça part dans la grande région. Par la suite, ça prend de la main-d'œuvre pour préparer cette cargaison-là, donc de faire une opération d'empotage, qu'on appelle, donc de mettre la marchandise dans des conteneurs. Ça prend des gens aussi pour faire de la mise en caisse, donc de préparer la marchandise pour la protéger pour le transport maritime. Donc, il y a une panoplie de gens qui sont utilisés pour ça. Par la suite, se vient avec le personnel, qui débardeurs, qui vont essentiellement prendre cette marchandise-là et la charger à bord des navires. Donc ça, dans une journée type au port, ça peut aller jusqu'à bien au-delà de 100 employés qui sont utilisés pour charger les navires. À bord des navires, on se trouve à avoir, du personnel qui s'occupe de la navigation, l'entretien. Mais il faut comprendre, un navire, c'est quasi comme une usine flottante. Mm-hmm. Il y a tout qu'un engin, il y a beaucoup d'hydraulique, il y a beaucoup d'acier, il y a beaucoup de peinture. Donc ça, on utilise des fournisseurs locaux pour faire l'entretien quand on revient à Bécancour. Donc vous voyez que c'est toute une chaîne qui support, qui nous aide au niveau de l'approvisionnement du navire. Puis là, je ne compte pas l'alimentation, donc les provisions pour utiliser lorsque les navires vont quitter. Bien entendu, le carburant, la gestion des déchets. Donc, c'est toutes les retombées au niveau économique local qu'il pourrait y avoir.
Puis moi, ce qui m'a surpris, David, les gens sur le navire, comme c'est au Québec, on pourrait penser que, OK, c'est plus facile, mais c'est pas du deux semaines. Hein? Quand ils embarquent sur le bateau, là, ils sont là pour un bon bout, même s'ils sont au Québec. Hein?
Tout à fait. Donc, si on regarde la composante des gens qui sont à bord des navires, ils sont employés typiquement entre 100 et 150 jours par année. Donc, ils embarquent essentiellement là, juillet, puis ils vont débarquer du navire novembre, décembre, dépendamment l'itinéraire du navire. Donc, ils sont là, c'est une période très intense, beaucoup d'achalandage en même temps. Donc, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un bien-être au niveau à bord des navires.
On peut dire que c'est un mode de vie, hein?
Tout à fait, tout à fait. Puis oui. C'est des gens qui cherchent beaucoup l'aventure, hein? C'est des gens qui cherchent une expérience unique. Puis, bien entendu, des marins adorent la navigation. Il faut comprendre que lorsque le navire quitte ici, Bécancour, il va faire un itinéraire à peu près de 7, des fois jusqu'à 14 jours pour se rendre à la destination. Wow. Lorsqu'on s'en va dans l'ouest de l'Arctique, l'ouest de l'Arctique canadien, 14 jours de navigation, imaginez-vous. Donc, ça touche l'imaginaire, au niveau de la grosseur du pays, la distance qu'ils sont à parcourir, puis l'isolement aussi au niveau des communautés ou des mines dans lesquels on peut desservir.
Le recrutement, est-ce que c'est difficile ou vous êtes toujours en besoin de main-d'œuvre ou c'est quand même pas pire?
Tout à fait. On a eu une croissance au cours des dernières années. C'est sûr que le recrutement, est, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas des difficultés, mais ce qu'on revoit par contre, c'est qu'il y a une belle rétention au niveau de notre main-d'œuvre qu'on développe. Tout passe par la bonne formation. Par l'aventure aussi, puis la raison d'être, de pourquoi qu'on fait ça, je pense que ça va chercher les gens, puis de voir l'impact qu'on apporte au niveau d'une communauté, surtout après quelques années. La personne, après 5 ans, va voir l'évolution d'une communauté qu'elle a transporté sa marchandise. Elle voit l'infrastructure qui s'est mise en place, des maisons qui se sont construites. Ça peut être un hôpital ou un centre de santé, ça peut être une école qui s'est construite. Donc, c'est un métier dans lequel les gens voient l'impact réel des biens qui sont transportés.
Donc, la valorisation n'est pas que corporative, elle est vraiment personnelle. À chaque employé là, qui voit effectivement, waouh, qu'est-ce qui se passe sur place là-bas. Là.
Tout à fait. Puis ça, je dois dire un grand merci à tous les gens qui sont à bord de nos navires, puis toutes nos équipes de débardeurs aussi qui sont renvoyés au nord pour être capables de supporter l'opération de déchargement. On a une équipe absolument fabuleuse, très dédiée qui travaillent d'arrache-pied et sans l'effort de ces gens-là à tous les étés, les communautés, les mines seraient à l'incapacité d'opérer littéralement.
Donc, pour 2025, des projets en particulier, on consolide ce qu'on a déjà ou…
En fait, on a déjà un navire additionnel qu'on prévoit ajouter à la flotte.
Ah oui, ah oui.
Donc, ça va venir bonifier. Donc, on va avoir un total de 10 navires sous pavillon canadien hein, qui va faire le transport maritime. Et donc, ça, c'est une belle opportunité de croissance pour nous, continuer de façon organique puis structurée. Donc, on est bien fiers des rajouts de navires, des navires qui sont aussi modernes, qui sont très efficients au niveau du carburant. Puis des très grandes capacités au niveau de charge. Donc, on est bien heureux de rajouter ce beau navire-là au sein de notre flotte.
Et puis, pour ceux qui sont sur le bord du fleuve, vos navires sont pratiquement toujours bleus, avec les deux barres jaunes souvent. Donc, sont facilement reconnaissables. Donc, quand vous voyez un navire de ce type-là, c'est des gagnés qui circulent sur le fleuve.
Exactement.
Donc, on peut maintenant reconnaître les navires, mais aussi on connaît mieux l'entreprise, on connaît mieux ce qui se passe dans le Nord grâce à vous autres, grâce à Dégagné Transarctique. Alors, merci beaucoup, David. Déjà, quasiment, l'émission est passée vite, mais oui, je ne sais pas si Donald a un petit mot à dire.
Je voulais remercier David pour une chose. On fait une levée de fonds actuellement pour amasser des sommes pour les saines habitudes de vie dans les écoles. On aura l'occasion d'en reparler, d'accord, ce qu'on appelle le défi Key West Nicolet Bécancourt. On a fait des envois de lettres fin juin, puis David m'a répondu le lendemain qu'il embarquait comme partenaire majeur. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va quand même bon train, mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir des entreprises qui veulent s'investir. Et puis, David, tu as répondu, je pense que c'est en heure que tu as répondu. Là, c'est peut-être même pas un jour. C'était pas le premier, tu es parmi les premiers qui ont répondu. Fait que je voulais te remercier devant les gens. Là.
Donc, ils sont rapides pour aller dans le Nord, mais ils sont rapides aussi dans le Sud. Donc,
ouais.
C'est bon, c'est bon. Écoutez, déjà terminé cette belle émission. Merci encore, David Rivet, président-directeur général de Dégagné Transarctique. Et merci encore, Donald Olivier, PDG du Parc industriel, d'avoir répondu aux questions du public et d'avoir encore une fois participé à cette émission. Et nous, on vous invite la semaine prochaine à notre émission Le Parc en 30 minutes. Le sujet, c'est l'environnement la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Cliquez sur « Poser vos questions ». 819-519-9050 pour nous contacter. 819-519-9050 texto ou téléphone. Bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine pour Le Parc en 30 minutes.